Bien, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous parce que nous allons parler d'un sujet tout aussi passionnant, bien que éloigné de celui que nous venons de suivre, qui est celui sur les robots, ce qu'ils nous apprennent. Nous allons parler de la procréation assistée. Demain, une procréation assistée, tel est notre sujet, avec un point d'interrogation. Ben, ce n'est pas demain, c'est avant-hier. Puisque finalement, le premier bébé français issu d'une fécondation in vitro, Amandine, a 28 ans, révolu. Avant 1982 et depuis, nous avons assisté à la multiplication des modalités des techniques de procréation autres que naturelles. D'abord les dons d'ovocytes, de sperme, les bébés éprouvettes, les mères porteuses. On nous dit que notre société connaît une infertilité croissante. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il serait de plus en plus difficile de faire des enfants naturellement ? Et l'humanité serait-elle en voie d'extinction naturelle ? Perspective vertigineuse. Pour traiter de cette question, nous allons avoir deux spécialistes et deux auteurs de science-fiction qui ont des enfants, l'une et l'autre, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là, mesdames. Alors, à droite du dispositif, vous avez le docteur Florence Eustache, qui est médecin biologiste. Vous êtes chef de service de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, madame, en charge du CECOS. Alors, le CECOS, c'est le centre d'études et de conservation du sperme humain. Vous avez donc une vision panoramique de la question qui nous intéresse. Centre d'études et en quelque sorte fournisseur d'une partie des gamètes mal nécessaires à la procréation assistée. Nous allons donc voir avec vous les mouvements qui se font jour dans ce domaine. Et je vais commencer avec vous. Je pose une question à réponse brève à chacun d'entre vous pour commencer. Lorsque vous avez déterminé le métier que vous alliez faire, que vous souhaitiez exercer, vous saviez que vous auriez à piloter ça, une assistance de plus en plus prégnante de la procréation ou pas ? Ou est-ce que c'est ce qui vous a amené ici, dans ce métier ?
C'est ce qui m'a amené, mais c'est vrai que rentrer dans le domaine de la reproduction, c'est passionnant. Il y a plein de nouvelles techniques. Et bon, moi, j'ai choisi une partie, je suis partie vers le don de gamètes et c'est très, très intéressant.
Don de gamètes en considérant l'ensemble ? Mâles et femelles ou juste les mâles en la
mâles circonstance. Mâles et femelles.
D'accord. Donc vous concernez
dons
également des ovocytes.
Et dons de sperme, tout à fait.
Merci beaucoup, madame. Bernard Jégou, vous prenez un micro, s'il vous plaît. Vous êtes d'abord président du conseil scientifique de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est le protagoniste de cette table ronde, comme de deux précédentes. Et vous êtes aussi, surtout opérationnellement, mais c'est une fonction opérationnelle d'être président du conseil scientifique, directeur de l'unité INSERM, j'adore, ils ont des numéros formidables, 625, groupe d'études de la reproduction chez l'homme et les mammifères. Ce qui est formidable, c'est que ça fait germe, donc ça dit tout, quoi. Donc vous êtes à l'université de Rennes, vous êtes biologiste, et j'ai envie, mais une envie utilitaire, vous allez le comprendre après, de vous rappeler que vous êtes l'un des relayeurs de Jacques Testard. Jacques Testard, qui a été le biologiste, opérateur de la naissance du premier bébé issu de FIV en France. Et j'ai regardé, avant de venir vous voir aujourd'hui, la photo du 24 février 82. Et curieusement, Jacques Testard, qui était entre les deux gynécologues obstétriciens hilars, en pleine effervescence de jeunesse, triomphe de jeunesse, lui, il a l'air bizarrement en retrait, il a l'air bizarrement inquiet. Et on va voir qu'il va l'exprimer après. Donc c'était intéressant de le voir entre Friedman et Papiernik. On va voir pourquoi plus tard. Alors ma question à réponse brève pour vous, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à explorer et à découvrir dans le domaine de la reproduction humaine et des mammifères, puisque vous occupez aussi des mammifères en général ?
Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir. En fait, les plus grands progrès qui ont été réalisés, on a vu cette année Bob Edwards devenir prix Nobel de médecine et physiologie pour l'invention de la fécondation in vitro. Ces choses relèvent évidemment de la connaissance biologique et médicale, mais surtout des avancées technologiques. Et derrière les avancées technologiques, il y a l'idée qu'on peut réparer en quelque sorte la nature. Et la médecine, aussi loin qu'elle remonte, s'interroge comment prévenir l'infertilité ou comment prévenir les problèmes qui nécessite une réparation. Donc je dirais que par rapport à la fécondation in vitro, je me situe en termes de recherche en amont, essayer de percer les mystères du bon fonctionnement de la fabrication d'un spermatozoïde ou d'un ovocyte, et quand ça ne marche pas, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas.
L'ensemble de la mécanique, quand elle fonctionne bien, mécanique, pardonnez-moi, système, dispositif, programme, que sais-je, ça on sait. Ce qu'on sait moins bien, c'est pourquoi ça bug, comment on peut réparer derrière. À la fois, il y a la connaissance initiale des sciences cognitives au départ, et puis il y a de l'ingénierie derrière, si j'ai bien compris.
La raison justement pour laquelle on ne sait pas quand ça va mal dans un grand nombre de cas, pourquoi ça ne marche pas, c'est justement parce qu'on ne sait pas comment ça marche dans les conditions normales. Donc pour approfondir les connaissances,
parfait,
pour mieux comprendre quand ça ne marche pas.
C'est formidable quand il y a encore des choses à découvrir, merci beaucoup. Charles Debat, vous êtes écrivain, vous êtes...
Debat.
Debat, très bien. On sent le prof qui rectifie l'erreur de l'élève, tout va bien. Je ne recommencerai pas. Écrivain, professeur de latin et de français. Vous avez fait des étincelles, dites-moi, avec la vieille anglaise et le continent.
Je n'y suis strictement pour rien.
Vous n'y êtes pour rien, oui, bien entendu. Enfin, vous avez eu 4 grands prix pour ça. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Dont le grand prix d'imaginaire 2009 dans la catégorie nouvelle francophone, vous n'y êtes pour rien. Et vous venez juste de publier Plaggers. Je le prononce bien, là ?
Tout à fait.
À la Talente. Alors l'argument est le suivant, la Terre est épuisée écologiquement, les animaux se sont éteints, et l'air est à peine respirable, et le seul atout de l'humanité, ce sont les adolescents. Ils sont malades, comme tous les adolescents, voilà. Mais ceux-là particulièrement, ils ont une plaie, mais peut-être que c'est tous les adolescents, qui les rend capables de créer, voire de commander aux éléments, de créer tout, voire de commander aux éléments. Ils sont siège de quelque chose qui les utilise, mais c'est peut-être tous les adolescents, pour canaliser une formidable énergie, et ils sont pourtant les parias du monde, comme tous les adolescents. Waouh ! Et dans ce livre, il y a la quatrième de couverture qui m'a fait dire, mais il y a quelque chose qui est complètement lié à notre sujet. Je peux lire les quelques lignes de la quatrième de couve. J'aurais pu faire bien des choix, j'aurais pu faire de nous nos propres divinités, j'aurais peut-être même pu guider l'humanité dans les étoiles. Mais j'ai préféré aider l'autre à naître. J'ai préféré aider l'autre à naître. C'est ce que nous allons discuter ici. Et nous nageons ensemble dans l'infinité des possibles. Je chante avec lui la chanson d'un milliard de mondes entre les mondes, tous grouillants de vie. Ça, c'est, comment dire, c'est plein d'espoir, tout ça. Alors, vous avez aussi publié L'enfant satellite cette année. Alors, l'enfant satellite, c'est une super métaphore de ce que nous allons discuter. Il est dans un satellite sur orbite dès sa naissance. Bon, là, c'est un tout petit peu avant, donc c'est une métaphore un peu décalée dans le temps, mais c'est quand même la bonne métaphore. Ma question à réponse brève, c'est votre héroïne de Plaggers. C'est naturellement une fille. Mais on lui impose un corps de garçon. C'est qui ce on ? Et c'est quoi le ressort de la figure de style de la métaphore que vous utilisez là ?
Alors, je ne me suis jamais complètement psychanalysée, donc je n'en sais pas vraiment grand-chose.
Mais c'est beau,
mais
hein.
On ne lui a pas imposé le changement. Ses parents et elles-mêmes ont espéré que le changement de sexe, avec le bouleversement chromosomique que ça impliquait, éliminerait celui que... éliminerait la maladie qu'elle avait en elle. Le problème pour elle, c'est qu'elle se retrouve toujours Plaggers, avec ce changement de sexe qu'elle n'a pas souhaité.
Ce qui veut dire, c'est la plaie, c'est que c'est d'être une fille, en fait.
Absolument pas.
Non, mais bon, on pourrait l'affairer. Anne Fakouri, vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi professeur de français. Vous êtes l'auteur du remarqué diptyque Le clairvoyage et La brume des jours, Grand Prix d'imaginaire 2010, pardon. Et dans la catégorie roman jeunesse, vous. Vous pourriez réunir ces deux ouvrages sous le titre Les aventures de Clara au pays des merveilles. Ça nous évoque Alice. Hein. En fait, ces merveilles ne sont pas si merveilleuses que ça. Alice, elle l'avait déjà compris. Et vous avouez, vous, très clairement, le choc qu'a provoqué dans la petite fille que vous étiez la lecture du livre de Lewis Carroll. Vous affichez sans désemparer votre goût pour les mondes imaginaires qui s'opposent à, dites-vous, l'ambiguïté d'une autre. On va voir peut-être ce que c'est que cette ambiguïté. Et vous êtes inspiré par les faits depuis que, sous les apparences des manuscrits enluminés de la légende du roi Arthur, elles se sont penchées sur votre berceau littéraire, puisque vous êtes une passionnée de la légende arthurienne. Alors, curieusement, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un lien entre cette passion que vous avez et notre sujet, c'est que c'est Merlin qui permet la naissance du roi Arthur et en utilisant de ses sortilèges. Alors, on va mettre des guillemets aux sortilèges et on va être à peu près dans notre sujet. Est-ce que vous pensez que Fivette, ça pourrait être un joli nom de fée?
Ce serait abominable.
C'est abominable, d'accord. Mais c'est pas la question.
Très drôle.
C'est pas ma question à réponse brève. L'éprouvette, vous trouvez ça plus ou moins imaginatif que les cigognes, les choux, les roses Comment font les fées d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de fées, F-E, accent aigu, masculin de fées.
Il n'y a comment, pas de sexualité comment, chez les fées.
Comment donc font Merlin? Ah oui, mais Merlin et Viviane.
On est dans le désir, on n'est pas dans la sexualité exprimée.
D'accord,
entre Merlin
l'amour.
Et Viviane. Non. Donc on n'est certainement pas dans l'idée de la reproduction. Et de toute façon, on est dans une idée de reproduction médiévale, ce qui est loin de notre sujet. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup. Bon, on a posé le décor, comme dit Gracq, à la fin du Rivage des Siens. Docteur Florence Eustache, est-ce qu'on pourrait faire avec vous un petit état des lieux? On va commencer par les dons de sperme. Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils sont en hausse? Est-ce qu'ils sont en baisse?
Alors, dans les dons de sperme, il faut voir deux choses. Il y a les couples receveurs, donc il y a toujours autant de demandes par rapport aux demandes de dons de sperme. Et après, il y a les donneurs. Et c'est vrai que les donneurs, c'est stable, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de donneurs pour pouvoir répondre suffisamment rapidement.
Il y a plus de demandes que...
Il y a beaucoup plus de demandes que de donneurs. Voilà. Et la même chose pour le don d'ovocyte, qui est encore un peu plus compliqué, puisque quand on parle de don de sperme, un homme qui va donner ses spermatozoïdes, il donne des millions de spermatozoïdes qu'on va mettre dans des petites paillettes, alors qu'une donneuse d'ovocytes, elle va donner quoi ? 5, 6, voilà, ovocytes. Donc, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées.
Alors, autre aspect des choses, la numération du sperme, ce qui va exprimer au fond son degré de fertilité. Est-ce que cette numération n'a pas bougé? Il y a des études qui montrent que si, mais bon, peut-être que vous avez une autre vision des choses. On dit qu'elle est moindre.
Alors, oui, Bernard Giroux, qui est à côté de moi, qui va renforcer cette idée. C'est vrai qu'il y a eu un très beau travail qui a été fait donc début des années 90, en France, avec l'équipe de Pierre Joanet, qui a montré qu'il y avait une baisse de la production spermatique sur plusieurs années. Maintenant...
La production spermatique, c'est le nombre de spermatozoïdes.
Oui, c'est le nombre
de quantité de sperme, c'est... Voilà.
Voilà. C'est le nombre de spermatozoïdes.
Moins 21%, c'est ça?
Voilà, oui. Mais maintenant, on est toujours, faut pas non plus dramatiser, on est toujours largement au-dessus des normes. Donc voilà.
Ce qui est très curieux, c'est, et qu'on a du mal à comprendre, c'est moins 21% de sperme, ça fait moins 7% de fertilité. Comme si c'était divisé par 3. C'est pas tout à fait ça? Professeur Gégout, monsieur Gégout dit non.
Non, on peut pas dire ça. C'est assez extraordinaire, la production de spermatozoïdes. Le testicule est l'usine à faire des cellules la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. À chaque battement de cœur chez un homme, il y a 1500 à 2000 spermatozoïdes de produits. Et donc, quand il y a une moyenne de 1% par an en moins, il y a toujours de la marge. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que la proportion d'hommes dans la population qui, autrefois, auraient eu des valeurs très, très élevées de sperme, a diminué, alors que la proportion d'hommes dans la population qui avait des valeurs faibles a augmenté. Et c'est là, dans cette augmentation de cette proportion faible, que probablement la nature offre des clients de façon supplémentaire à la fécondation in vitro. Et donc, ce n'est pas l'infertilité proprement dite, puisque la technologie réussit à créer des enfants, mais c'est peut-être une érosion de la capacité naturelle, mais pas partout. Il y a des villes où ça ne se produit pas. À Rennes, ça ne s'est pas produit. Paris intramuros, ça s'est produit.
Les Bretons seraient plus résistants, finalement.
Les Bretons ont la deuxième concentration en spermatozoïdes en France. Les Nordiques sont les plus forts. On arrive juste derrière.
Bon, alors, faut que vous expliquiez ce fou rire, là. Parce qu'un battement de cœur produit 1500 spermatozoïdes, ou un million. Qu'est-ce qui vous fait rire?
La vision,
le battement de cœur qui produit du spermatozoïde.
Un garçon qui passe et je vois un million de spermatozoïdes.
Qui se produisent à chaque battement de cœur.
C'est juste éprouvant.
Très bien, mais c'est formidable. Mais bon, très bien. Alors, je reviens à vous, docteur Eustache. Finalement, est-ce qu'il y a une évolution aussi des sollicitations? Alors, vous disiez, on n'a pas assez de dons pour répondre aux demandes, mais est-ce qu'il y a une des demandes en augmentation, étale ou en diminution. On a le sentiment, avec l'évolution des technologies, qu'on va de moins en moins recourir à, au rassemblement comme ça, ou je ne sais pas. Dites-moi.
Oui, alors, c'est vrai que le don de sperme existe depuis 1973. Donc c'est vrai qu'en 1973, il n'y avait pas toutes les techniques qu'on connaît actuellement. Donc il y avait énormément de demandes. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la FIV, l'arrivée de la FIV avec micro-injection, où il suffit d'un petit spermatozoïde pour aller mettre dans l'ovocyte. Donc c'est vrai qu'on a pu prendre en charge en fécondation in vitro un certain nombre d'hommes qu'on ne pouvait pas le faire avant et donc qui recouraient au don de sperme. Alors, c'est vrai qu'on a diminué, les demandes ont diminué dans les années 90, mais maintenant elles se stabilisent parce que maintenant la fécondation in vitro avec micro-injection ne résout pas non plus tous les problèmes. Donc les cas les plus extrêmes donc, existent malheureusement et on a une demande qui est complètement stable.
Oui, cela dit, la demande est en augmentation très très, très forte globalement de fécondation, oui, de procréation assistée, c'est ça en fait.
Oui, oui.
Bien, Bernard Gégou, du coup, vous l'avez indiqué tout à l'heure, la recherche, elle se tourne vers l'amont et vers l'aval, l'ingénierie d'aval. L'amont, c'est trouver les causes de la baisse de fécondité que vous avez décrit avec beaucoup plus de précision que je ne l'ai fait. Et puis après, ça va être trouver de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de reproduction. On va d'abord parler du premier volet, les causes. On parle un peu partout d'une féminisation du monde. Est-ce qu'il y a un lien ?
Alors, bon, le rapport des sexes à la naissance, le sexe ratio, c'est peut-être pas cette entrée que vous voyez à votre question, mais en tout cas, je vais en parler parce que ce sexe ratio est en faveur des garçons le jour de la naissance. Il y a plus de garçons tendanciellement que de filles. Mais très rapidement, dans les premiers mois de la vie, le ratio s'inverse avec plus de filles. Les petits garçons sont plus fragiles et ont des comportements à risque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sexe ratio, lorsqu'il est naturel, ce qu'on observe après la première guerre mondiale, par exemple, c'est que dans les années qui ont suivi, il y avait plus de filles à la naissance que de garçons. Et après toutes les guerres, il y a plus de filles à la naissance que de garçons, sans qu'on sache pourquoi.
D'accord.
Et hors guerre, je prends aux États-Unis, par exemple, le sexe ratio a tendance à dériver progressivement vers tendanciellement plus de filles à naissance que de garçons, sans qu'on sache exactement. Mais lorsque les humains interviennent là-dessus, soit en éliminant les petites filles, comme en Chine, de façon ancestrale, soit maintenant plus subtilement, par le sexage de l'embryon ou par l'échographie, eh bien on se rend compte qu'il y a des continents, comme la Chine, qui ont un déficit de filles, et donc la Chine se masculinise, mais le reste du monde se féminise.
Bien. Alors effectivement, ce n'était pas tout à fait ce que j'entendais au départ, mais c'est très bien d'avoir entendu ce que vous venez de dire. Quand je disais une tendance à la féminisation du monde, on nous inquiète beaucoup en nous parlant de tous ces estrogènes qui sont rejetés dans les eaux, des ruisseaux, des rivières, des fleuves, dans la mer, les estuaires, et qui auraient tendance à féminiser jusqu'à y compris les poissons. On nous parle aussi, les cloportes, vous vous rendez compte, les cloportes. Parce qu'on dit d'abord, c'est un cloporte, on ne dit pas, c'est une cloporte. Mais les cloportes, ils deviennent féminins. Tout simplement parce qu'il y a une... je ne sais pas ce que c'est une bactérie qui est inhibitrice du mâle. Bon, ils ne sont pas tous atteints, mais bref. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là qui joue ?
Oui, alors ça, c'est effectivement un autre aspect de la féminisation telle que vous l'entendez. C'est dans la baie de Brest qu'il a été démontré dans les années 70 que les bigorneaux... qui sont hermaphrodites, hein, selon la densité, selon les conditions, ils peuvent donner des gars ou des filles. Mais là, la colonie de bigorneaux était très largement masculine parce que les peintures anti-fouling des bateaux, les tributylétains, imposaient le sexe masculin. Alors ça, c'est un exemple. Mais dans les rivières, vous avez raison, en Angleterre, on observe le phénomène inverse et où, si on met des truites mâles, par exemple, dans des cages dans la rivière, elles vont se féminiser. Parce que dans l'eau, on trouve des substances qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens sont majoritairement de nature œstrogénique. Et ça peut être donc soit des œstrogènes naturels, je prends une population humaine, une station d'épuration, et les œstrogènes de l'urine qui sont rejetés, mais ça peut être aussi la pilule féminine, l'éthinylostradiol, on peut la mesurer dans les cours d'eau. Donc on est entouré de substances qui... peuvent être de nature œstrogénique, mais aussi peuvent être de nature anti-testostérone. C'est une autre façon de féminiser un mâle, c'est d'empêcher qu'il produise de la testostérone.
Alors, je suis tombé sur une dernière hypothèse. Il y a une théorie qui s'appelle la pléiotropie antagoniste, qui distingue les gènes capables successivement les mêmes, de faciliter la reproduction et puis de faire vieillir et mourir. Donc il y aurait quelque chose de logique à... On vieillit moins, plus lentement, donc on aurait peut-être plus de difficultés à se reproduire. C'est une idée folle, pardonnez-moi. Aucun rapport. Je vois vos délégations. Non, mais je fonctionne un peu. Vous avez vu, les cloportes féminins, c'est pas possible. Vous avez vu comment l'imagination des auteurs fonctionne. J'ai le droit à mon imaginaire aussi, et je dis, il y a peut-être cette hypothèse-là. Les bigorneaux masculins, vous avez compris, vous. Oui, pourquoi c'est logique? Parce qu'ils rentrent plus facilement dans l'eau, comme ça?
Exactement. Voilà, on va dire ça.
De la peinture, voilà.
Exactement.
Donc, non, mon hypothèse n'est pas bonne.
Écoutez, Woody Allen dit que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
Oui.
Et dans cet aphorisme, on retrouve finalement votre idée, c'est que les gènes qui permettent la reproduction enclenchent par cascade l'expression de gènes qui vont mettre fin à la vie aussi.
Bien, j'arrête de débattre. La Terre est épuisée écologiquement, je citais ça tout à l'heure, les humains ont l'air de s'essouffler un peu. Et pourtant, on nage dans l'infinité des possibles et vous chantez la chanson d'un milliard de vies. Je disais tout à l'heure, c'est un optimisme formidable. Est-ce que vous venez d'entendre, ça renforce cet optimisme ou ça le tempère? Vous avez plutôt l'air de rigoler.
Moi, j'écris de belles histoires.
Voilà.
Certaines fois, elles se terminent bien.
D'autres mal.
D'autres très mal. Plagueurs a son miroir en jeunesse et il s'appelle La Balade de Trash et c'est exactement l'inverse, la réponse que je donne. Là vous me prenez à froid, je n'ai rien à dire là-dessus.
Bon.
Une histoire va dans sa logique. La logique de Plagueurs, c'est que la vie s'étend, la vie s'accroît et la vie se soutient. Maintenant, la logique de Trash, c'est que l'homme peut arriver à se flinguer lui-même. Je pense que les deux réponses sont également bonnes.
Jusqu'à maintenant, ce que vous avez entendu, c'est que c'est plutôt la première, c'est la logique de Plagueurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une...
C'est vous qui avez choisi ce roman-là, mais...
Oui, mais voilà. Non, parce que j'ai choisi celui-là parce qu'il avait le contenu que j'ai indiqué par la quatrième. En tout cas, ce que vous avez entendu, c'est ça. Il y a l'optimisme, vous l'avez renforcé peut-être.
Ah, ça, c'est un optimisme scientifique, je vais dire. Qui ne correspond pas du tout à mes préoccupations personnelles. En tant que femme, la procréation assistée, ça ne m'a ni utile,
ni comme ni femme, ni comme auteur.
Ni envisageable, d'ailleurs. Si j'avais été stérile, je n'aurais pas fait appel à la procréation assistée. J'aurais fait avec, parce que je ne me sens pas plus ou moins femme d'avoir fait des enfants. Et j'aurais pas forcé pour en avoir. Je n'aurais pas vécu l'enfer que vivent certaines femmes pour en avoir. J'estime que c'est une autre façon de se flinguer la vie excusez-moi. Je parle juste en tant que moi. La façon dont j'ai vu certaines amies vivre leur tentative plus ou moins réussie d'avoir des enfants par des voies scientifiques m'a paru bien plus terrible, bien plus terrifiante que d'accepter d'être ce qu'elles étaient, à savoir des femmes stériles, et à faire une vie en tant qu'être humain qui n'avait pas comme vocation de faire des enfants, mais une vocation d'être individu et de se réussir en tant qu'individu, pas seulement en tant que porteuse de l'avenir de la race ou de Dieu sait quoi.
L'avenir de l'homme, voilà. De l'avenir de l'homme.
Que les scientifiques ici présents, c'est juste moi. Hein. L'avenir de l'homme, non, je m'en fous.
Bon, d'accord. Bien, alors, Anne Coury, vous voulez ajouter des choses?
Je ne sais pas si on m'entend, si je peux me permettre d'intervenir, parce qu'effectivement, je vais justifier ma présence ici, parce que la sexualité des fées, on s'en fout un peu. En revanche, là, évidemment, celle des bigorneaux nous intéresse plus, donc, évidemment, là, ça me parle un petit peu plus. Il y a peut-être une explication d'un point de vue social qui s'exprime par la littérature dans cette idée de... Enfin, ce qui est intéressant, en fait, dans ce sujet, on a commencé par l'infertilité masculine, alors que socialement, ce qui s'exprime beaucoup plus, c'est l'infertilité féminine. On est encore dans cette idée que si un couple ne peut pas avoir d'enfant, c'est la faute de la mère. On est encore dans une société où la mère est sanctifiée. Je vous invite à lire l'excellent livre d'Elisabeth Badinter à ce sujet, où la mère est quand même sanctifiée et où, je pense, pour reprendre les propos de Jeanne sur cet enfer que peut être la procréation assistée, qu'on est encore là dans une idée de sacrifice. C'est-à-dire qu'avant, on avait des enfants dans la douleur au moment de l'accouchement. Là, dès la conception, il y a une douleur et il y a cette idée de sacrifice de tout ce qu'on a traversé pour avoir un enfant. Du moins, moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup au travers de ce que je peux entendre en tant qu'auteur, évidemment, en tant que lectrice, mais aussi en tant que mère, en tant que femme. Le sujet est assez récent puisque j'ai eu un bébé il y a un mois et demi, donc j'ai bien vu ça. On est toujours dans cette idée de mère courage, de mère sacrifice qui, dès le départ, souffre dans son corps au moment de concevoir. Alors que naturellement, évidemment, on ne souffre pas.
Excuse-moi, la souffrance que j'ai vue, elle est essentiellement d'ordre psychologique.
D'ordre psychologique,
elle est aussi
oui.
physique.
Je vais juste intervenir, alors, oui. si vous permettez.
Mais je vous en prie.
Donc, par rapport à ce que vous avez dit plein de choses qui sont complètement justes. Moi, quand je reçois les couples, et je ne suis pas toute seule, hein, y a plein de collègues qui le font, dans les possibilités, j'évoque toujours le fait de ne pas avoir d'enfants. Je veux dire, il y a des choix.
Ou d'en adopter.
D'en adopter, il y a l'adoption, il y a donc quand il y a vraiment, il y a le don, l'adoption, et après il y a le choix aussi de ne pas avoir d'enfants. Et il y a des couples finalement, ils se disent, sur le coup, ils réagissent mal parce qu'ils étaient dans cette démarche d'avoir un enfant, et finalement, après avoir vu la psychologue, après les avoir encadrés, ils se disent, finalement c'est peut-être mieux comme ça, et on se retrouve mieux tous les deux. Mais c'est un choix, et c'est un choix qui n'est pas facile, hein, de toute façon. Parce qu'à la base, quand ils sont venus nous voir, ils voulaient avoir un enfant. Et après, quand vous dites, vous n'auriez pas eu d'enfant, vous auriez fait ce choix, je pense que c'est peut-être aussi un petit peu facile, parce que vous avez eu la chance d'avoir des enfants, et vous n'êtes pas posé la question, vous voyez les choses peut-être de l'extérieur, donc peut-être que...
Alors, je m'élève contre la notion de chance, déjà. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants.
Je dis ça par rapport au couple.
Je les ai faits.
Vous les avez
faits. Connaissance de cause. Bon. J'ai eu cette possibilité-là. Possibilité. Chance. Où ça, chance ?
Non, bon. je dis chance par rapport au couple
Si je me permets de réagir, justement, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une ère du biologique à tout prix. D'ailleurs, d'un point de vue légal, ça se ressent, puisqu'on en vient à chercher, au cours de procès de divorce, à chercher l'identité des donneurs de sperme, par exemple, dans le cas de séparation de parents. Effectivement, pour étudier cette possibilité de parentalité là, on est quand même dans. Est-ce que vous ressentez ça? On est dans cette. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans cette ère du biologique, du naturel à tout prix, au-delà de la science, justement.
Une réponse brève, s'il vous plaît, docteur.
Oui, je voudrais juste réagir sur ce que vous avez dit juste avant par rapport à la femme. Et on dit toujours que c'est la femme qui a du mal à avoir des enfants par rapport à l'homme. C'est vrai. C'est toujours un sujet tabou. C'est toujours difficile de dire qu'un homme est infertile. D'autant plus, je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une ambiguïté entre l'infertilité et l'impuissance. Voilà.
Alors,
par rapport à... Je réponds pour l'anonymat ou pas ?
Pour l'anonymat, attendez, je vais y venir avec elle, parce que dans l'histoire de Merlin, du roi Arthur, etc., je suis désolé, c'est parce que c'est intéressant quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Le père, la mère de Merlin, du roi Arthur, c'est la duchesse de Cornouailles.
Et Uther Pendragon.
Et Uther Pendragon, qui est le père, s'avance avec les sortilèges, sous les sortilèges de Merlin, masqué. La duchesse de Cornouailles croit avoir une relation sexuelle avec le duc de Cornouailles.
Sans aucun but de reproduction, qu'on soit bien clair.
Oui, c'est bien clair. Non, mais elle croit avoir... Elle fait ce que Pauline Bonaparte voulait faire. Je préfère commencer 1000 enfants que d'en terminer un seul. Hein, voilà, c'est ça. Donc elle avait une relation avec celui qui revenait. Et donc, du coup, il y avait comme le sortilège, c'était je dissimule qui je suis. Et on est un peu dans la problématique de je prends le père, c'est celui que j'ai épousé, en fait, c'est le donneur de sperme. On est un peu là-dedans. Et d'un seul coup, ça va poser des problèmes derrière à la duchesse de Cornouailles, non ?
Oui, mais ça, c'est une vieille question. Est-ce que le père, c'est celui qui procrée ou c'est celui qui élève? C'est toujours la même question. Arthur lui-même ne va pas être élevé
non,
par son père biologique, ouais. De toute façon, puisqu'il va être élevé par un vavasseur et après par Merlin, récupéré par Merlin. Donc, de toute façon, on est toujours dans cette idée qui rejoint effectivement le sujet de... Qui est le père? Celui qui élève, celui qui procrée.
Ça veut dire au fond que nos débats actuels, ils ont été imaginés, conçus dès le Moyen-Âge.
Dès la mythologie, avec bon. La question d'identité.
Donc on n'est pas dans des choses nouvelles. Alors, docteur Eustache, je suggérais presque que le Ségos était un outil, allait bientôt devenir un outil du passé, parce que peut-être l'évolution des technologies. Allait faire en sorte qu'on n'allait plus avoir besoin de la même manière des dons de sperme, que peut-être on allait faire des enfants en prenant des cellules autrement, sur les gens qui sont réputés infertiles. Bon, je fais l'avocat du diable là, pour que vous nous dressiez un petit tableau des technologies que vous voyez, comment de reproduction assistée, et comment vous les voyez prendre leur place, se frayer un chemin, prendre l'ascendant, comment vous voyez ça?
Pour l'instant, absolument pas d'actualité de se séparer du spermatozoïde d'un côté et de l'ovocyte de l'autre. Hein.
Non, mais ça, du spermatozoïde du donneur anonyme. C'est ça, le Ségos. Hein.
Le Ségos, oui, c'est le don de sperme. Mais vous voulez que je vous dresse un petit peu par rapport
non,
aux technologies?
Non, c'était juste prétexte à ce que vous fassiez un panorama des techniques qui sont utilisées à l'heure actuelle.
Alors, les techniques qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le cadre de la l'aide médicale à la procréation... ça va de la technique la plus simple qui est juste l'insémination où on va déposer une quantité de spermatozoïdes au niveau de la cavité utérine. Après on va, quand il y a un petit peu moins de spermatozoïdes ou qu'il y a des problèmes chez la femme de trompe utérine bouchée, on va passer à la fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on va aller stimuler la femme, récupérer les ovocytes, remettre les spermatozoïdes en contact. Les spermatozoïdes se débrouillent pour féconder et après on obtient des embryons qu'on va replacer dans la cavité utérine. Après, technique un petit peu plus compliquée, quand il n'y a vraiment pas beaucoup de spermatozoïdes, c'est d'aller mettre, toujours en fécondation in vitro, donc toujours le même principe, la stimulation, c'est d'aller mettre un spermatozoïde dans l'ovocyte, et après de remettre tout ça au chaud et d'attendre, voir s'il y a fécondation et embryon qui se développe. Et après, les nouvelles techniques qui sont l'IMSI, où on regarde avec des techniques beaucoup plus performantes au niveau du microscope, on voit beaucoup mieux le spermatozoïde, on sélectionne mieux le spermatozoïde, et on arrive à avoir un beau spermatozoïde qu'on va mettre à l'intérieur de
quand
l'ovocyte.
Vous dites on va en prendre un beau, c'est-à-dire un bien vivace, un bien costaud,
oui, oui,
qui a toutes
oui.
les caractéristiques.
Mais c'est vrai que dans l'ICSI, les objectifs n'étaient pas suffisamment puissants, donc on voit quand ils bougent bien, mais après l'analyse du sperme est très compliquée, et après il y a d'autres anomalies qu'on ne peut pas forcément voir. Maintenant avec oui. l'IMSI, on peut les voir, et donc ça permet
toute chose est sûre, voilà, pour le meilleur.
Exactement.
On est dans l'eugénisme parfait, là, on sélectionne à la place de la sélection naturelle.
Enfin, l'eugénisme, c'est un bien grand mot, là, quand même, on n'est pas dans l'eugénisme.
C'est comment sélectionner les meilleurs?
On ne choisit que le spermatozoïde sur le plan morphologique.
Mais après,
au niveau génétique, on ne choisit strictement rien, on est bien d'accord.
D'accord, parfait. Mais on va en débattre dans le dernier point. Bernard Gégou, avec cette injection directe du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte que le docteur Florence Eustache vient d'évoquer, on a franchi une étape qui est peut-être l'ultime dans la quête de l'efficacité. C'est-à-dire que là, du coup, parce que ces technologies, il y a une déperdition, ça marche pas à coup sûr. Là, la fécondation, elle est quasi absolue, obtenue avec l'injection. On va juste se borner à ce versant de l'affaire et je vous entraînerai sur l'autre versant, le jugement, après.
Avec l'injection du spermatozoïde dans l'ovocyte, donc ce qu'on appelle l'ICSI, ce qui a été changé, c'est que des milliers d'hommes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et couples donc ont eu des enfants. Mais la performance de reproduction de l'espèce humaine ne s'est pas améliorée. Ce qui est frappant, c'est que les humains sont des mauvais reproducteurs. Par cycle, chez un couple qui est parfaitement normal, on n'a qu'une chance sur cinq de faire un enfant. Et la fécondation in vitro, sa performance n'augmente pas les chances statistiquement ou pratiquement pas d'avoir des enfants par rapport à la situation naturelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, avec l'entrée en résonance à la fois de la génétique et des techniques de prothèses, de chirurgie, etc., c'est que on s'oriente, et incontestablement, et ça je pense que ça peut rejoindre certaines prémonitions de la science-fiction, on s'oriente vers une médecine, si je puis dire, qui n'est plus destinée aux malades, mais qui est destinée à augmenter les performances des humains,
les humains en général,
sains et non malades.
C'est un peu le rapport Rocco-Bainbridge de, voilà, des États-Unis, c'est
donc,
ça.
Donc je pense que c'est moins la reproduction en tant que telle que le bricolage et l'amélioration du bricolage des gens sains pour prolonger et leur performance cognitive et leur performance mécanique, c'est-à-dire pour qu'ils vivent plus longtemps dans des meilleures conditions et leur permettre de changer les pièces détachées, etc., soit à partir d'organes, soit à partir de prothèses.
Alors quand vous dites bricolage, c'est un peu négatif quand même dans votre... Dans votre expression, où c'est juste un constat. Pour l'instant, il n'y a pas encore de jugement. On va y venir quand même au débat éthique. Hein.
Non, et pour moi, ce n'est pas un fantasme. Je voudrais juste dire quelque chose aux deux auteurs RES qui sont à côté de moi.
Non, RS, RS.
Auteur,
RS.
Sans eau.
Bon, écoutez, le débat est ouvert. Décidément, on ne sera pas d'accord sur beaucoup de choses, j'ai l'impression.
Je suis vraiment désolé.
Et donc, c'est le clivage que Florence et moi... On serait les représentants incarnés du positivisme de la science et du scientisme et d'une vision optimiste parce que fondée sur la science, etc., par rapport à l'écriture ou par rapport à l'imaginaire. En fait, je ne vois pas si vous permettez de dire ça. On est dans notre métier des professionnels et en dehors du métier, on est des citoyens comme tout le monde avec nos sensibilités. Je pense qu'une époque où les choses vont bien... Tendanciellement, on a plus de probabilités que les applications de la science s'orientent vers des bonnes choses. Et quand l'époque va mal, je pense qu'on a tendance à voir des applications de la science qui peuvent être négatives.
Merci beaucoup. Alors, vous vous êtes réparti le boulot, vous avez fait les signes, alors allez-y.
Alors, Anne d'abord.
Anne d'abord, Jeanne après.
Non, moi j'ai absolument pas justement d'appréhension de la science négative, au contraire, et spécialement dans le cas de la maternité, et au contraire je m'élève contre cette mode du naturalisme, d'où ma question, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vient à une idée du biologique à tout prix, du naturel à tout prix, ce qui est paradoxal à un moment où la science permet justement de résoudre les grands problèmes de fertilité. Et ça, c'est évidemment en tant qu'auteur, mais aussi en tant que femme, je n'ai absolument rien contre la science, en particulier dans le cas de la maternité.
Déjà, la science ne résout pas tout.
Parlez bien fort devant le micro.
Je n'ai pas dit tout. Alors, je passe pas non plus du négativisme à une confiance aveugle dans la science. Mais au contraire, mon propos n'est pas de dire il faut procréer de façon naturelle. Loin de moi l'idée d'imposer quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais au contraire, justement, je m'élève contre ça, contre ce naturalisme et contre ce biologique à tout prix.
Alors,
qui fait des ravages.
Avant que vous ne répondiez.
Et là, je pense en particulier à l'adoption, justement, au problème de l'adoption.
Alors,
à vous, Jean.
J'ai entendu le mot positiviste. Plus positiviste que moi, vous mourrez. Je suis une SFiste de la très vieille école, c'est-à-dire, mais pas tout à fait très vieille, pas celle de Frankenstein, celle d'après. Je suis absolument persuadée que la science nous sauvera. Et c'est pas quelque part, hein, mais c'est j'ai pas forcément raison, hein, on est bien d'accord, il y a des moments où j'ai des doutes certains, mais c'est pas la science que je remets en cause là. Toutes les possibilités merveilleuses que vous nous offrez m'éblouissent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le devenir social et la pression sociale sur les femmes. Après, et ça, les scientifiques n'en sont absolument pas responsables. On est bien d'accord. C'est une chape sociale qui pèse sur les épaules des femmes.
Ouais. Mère
chape,
à tout prix.
Chape qu'elles sont les premières à se faire poser dessus. Hein. Attention, c'est pas la faute des mecs. Hein. Là, on est en première ligne pour être nos propres oppresseurs. Mais là, en l'occurrence, je n'attaque pas la science. Jamais. Et dans aucun de mes livres.
Bon, alors, moi je voudrais revenir vers vous, Bernard Jégou, parce que les bases de ce débat éthique là, qu'on a commencé à esquisser, et à mon avis, ils ont été posés très vite, dès 1982, précisément par le dialogue, par bouquin interposé entre Testard et Friedman. Friedman, lui, il écrit le premier, il tire le premier en 85, l'irrésistible désir de naissance. Testard lui répond, semble lui répondre, avec successivement... De l'éprouvette au bébé spectacle 84, Le magasin des enfants 90 et Le désir du gène 94. Alors, si je veux résumer les thèses qui ont été énoncées par l'un et par l'autre, Friedman, il n'aimait que deux réserves aux technologies qu'il a contribué à engager. Pas de mère porteuse, parce que c'est fermement une exploitation de l'homme par l'homme, dit-il, et pas de clonage reproductif, parce que là, bon. Et le second, il parle plus finement et successivement de l'apparition d'un être culturellement incomparable à nous, et donc du suicide du genre humain. Il emploie cette formule-là. Et il voudrait préserver des valeurs infiniment plus précieuses à l'humanité que, citation, la satisfaction d'intérêts et de besoins particuliers. Mon ego, je veux avoir cet enfant, donc quels que soient les moyens, je vais l'obtenir. Et il pointe un nouvel eugénisme démocratique, doux et insidieux. Alors, quand je disais que vous étiez son héritier, vous êtes son héritier, parce que vous avez qualifié de coup d'état biologique l'injection directe du spermatozoïde dans l'ovocyte. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une synthèse entre ce débat-là, comment vous le tranchez vous, et comment vous en arrivez au coup d'état biologique, et que signifie cette expression forte, coup d'état biologique?
Vous allez voir, c'est paradoxal par rapport à ce que vous dites. Je connais bien René Friedman, je connais bien Jacques Testard. Ce que l'expérience du dialogue, voire de la confrontation démocratique et scientifique avec eux, m'a appris, c'est que chacun d'entre nous place son curseur de l'interdit à des niveaux différents, mais sur les mêmes bases, plus ou moins. Et où est le paradoxe, c'est vis-à-vis de Jacques Testard, c'est quand j'ai utilisé le terme de coup d'état biologique, c'était pas pour caractériser l'injection du spermatozoïde, même si, franchement, j'avais des interrogations. Réaliser une première, comme on escalade la face nord de l'Everest, si vous voulez, une première technologique sur ce terrain de la procréation, sans avoir accumulé des données chez l'animal, je trouve ça risqué. Mais où j'ai parlé de coup d'état biologique, c'est quand Jacques Testard lui-même a cautionné les tentatives, mystérieuses d'ailleurs, d'injection, non pas du spermatozoïde, mais des cellules précurseurs du spermatozoïde. Et quand je dis que chacun d'entre nous a nos contradictions, Jacques, qui n'est pas là pour se défendre, entre guillemets, si je puis dire, donc je ne veux pas être déloyal vis-à-vis de lui, mais pouvait s'ériger contre l'injection du spermatozoïde et cautionner ce qui est encore beaucoup plus risqué biologiquement, l'injection de la cellule qui donne naissance au spermatozoïde. Alors pour le reste, je vous dis, on est très emprunts les uns les autres, indépendamment de nos professions, certainement de l'empreinte familiale, éducative, philosophique, religieuse qu'on a pu chacun d'entre nous intégrer. Et il y a un moment où chaque chercheur dit stop. Et en fait, ceux qui sont les plus audacieux parmi les audacieux sont ceux qui se sont éloignés le plus de la science, le plus souvent. Après, une fois qu'on la pratique, je vous dis, on a chacun notre sensibilité.
Alors, justement, vous parliez de curseur. Où est-ce que vous le placez, vous? Et une fois que vous nous aurez dit où vous le placez, pour quelle raison vous le placez là?
Alors, le curseur, pour moi, c'est qu'il n'y a pas un champ de la médecine qui ne doive être précédé de l'accumulation des connaissances cognitives, d'abord, et sur des recherches chez l'animal. Parce que la recherche chez l'animal doit être encadrée éthiquement. Et personnellement, je suis extrêmement scrupuleux sur cet aspect. J'ai même été le président du comité d'éthique de l'expérimentation animale de tout le Grand Ouest. C'est vous dire que c'est un souci. Mais, je veux dire, si on fait une tentative de remplacement des genoux par une nouvelle prothèse, certes, on prend un risque médical et le risque est inscrit dans la démarche médicale. Mais voilà, on peut toujours revenir en arrière. Si, en l'absence de données chez l'animal, ou en présence même de données chez l'animal qui font clignoter des signaux d'alarme, on tente des expérimentations sur la fécondation, sur la procréation humaine, c'est là que moi, il situe mon curseur, c'est de dire et d'interpeller et les chercheurs, et les promoteurs de ces techniques, ou les pouvoirs publics, et leur dire, est-ce bien raisonnable?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va chercher à faire naître un individu nouveau, en dehors du chemin qu'on n'a pas inventé, qui existe, la rencontre d'une gamète mâle et d'une gamète femelle, le coup d'état biologique, c'est de faire avec autre chose. Parce qu'on peut imaginer mélanger des noyaux d'autres cellules, alors même pas précurseurs du spermatozoïde, du coup. Donc on peut imaginer créer de la vie comme ça. Enfin,
absolument.
Y compris donc cloner.
Et là, pour le coup, on peut le faire chez la souris. Une question qui nous préoccupe aujourd'hui encore plus que quand j'ai parlé de coup d'état biologique, donc je ne regrette pas de l'avoir fait, c'est qu'on connaît l'importance de la génétique dans la transmission à travers les générations. Tout le monde connaît ça, puisque pour certaines maladies dites monogéniques, s'il y a une mutation, on va retrouver cette mutation sauter les générations. Maintenant, il y a cette nouvelle notion de l'épigénétique. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir un gène. L'environnement du gène est important pour qu'il puisse s'exprimer correctement. Et quand on utilise des cellules immatures pour fabriquer des êtres humains, eh bien, on a cette notion que la maturation de la cellule vers le spermatozoïde est absolument indispensable pour garantir que l'environnement de l'ADN sera correct. Donc, si on saute cette étape, on risque, certes, on va fabriquer des êtres humains, mais on risque de faire passer dans les générations, éventuellement, des anomalies qui ne tiendront pas à l'ADN lui-même, mais à la façon dont il pourra s'exprimer.
Donc on ferait des êtres génétiquement modifiés, du coup.
Ah, mais certainement.
Clairement.
Certainement. Mais par contre, je ne suis absolument pas hostile au progrès de la génétique. De pouvoir dépister actuellement un certain nombre de maladies qui sont portées par le chromosome X, dès le stade embryonnaire, c'est un progrès, parce que qui niera maintenant que de pouvoir éviter à des familles de porter des enfants qui, de façon inéluctable et en sachant, vont subir des maladies absolument terrifiantes. Je crois que ça, vous voyez la différence, c'est que ce n'est pas la procréation médicale, ce n'est pas le geste chirurgical, ce n'est pas la détection génétique. Tout dépend après du contexte. Et la différence entre Jacques et moi, c'est que Jacques a un stop, son curseur se place sur la génétique en tant que telle. Moi, je ne le place pas sur la génétique en tant que telle, mais sur une utilisation qui serait débridée, non raisonnée de cette génétique.
Docteur, votre curseur, vous le placez où? Vous l'expliquez comment?
Moi, mon curseur, je suis excessivement prudente, je pense. Moi, j'ai besoin d'une validation d'une technique avant de pouvoir l'utiliser.
Bien. Alors...
De ce point de vue-là, on est très convergent.
Globalement, il y a une espèce d'uniformité des positions dans le milieu scientifique, dans le vôtre en tous les cas, sur cette question-là, bien entendu. Je voudrais vraiment tourner vers vous, parce que, au fond, ce qu'on a entendu là, c'est... on est toujours dans des processus naturels, au fond, la rencontre de deux cellules. Si on fait quelque chose avec une cellule immature, on est dans quelque chose qu'on n'a pas, qu'on est en train d'inventer et ça ne va pas. Au fond, vous avez à peu près la même problématique. L'écriture, vous ne l'avez pas inventée. Vous disiez « j'y suis pour rien » de ce roman. Donc, en fait, on serait... Tant qu'on est des interprètes, ça roule. Mais pour des auteurs, être des interprètes, c'est quand même très paradoxal. Expliquez-nous votre position, là, en tant qu'auteur masculin. Auteur masculin, le mot masculin.
En tant qu'auteur masculin,
non, l'auteur est, le mot auteur est masculin. Non, vous avez bien compris, vous avez bien compris. Personne ne peut avoir de doute sur le sujet. Allez.
Ah, mes élèves m'appellent monsieur parfois.
Oh, c'est quand vous faites votre grosse voix, alors.
Non. Non. J'ai beaucoup de mal à parler de mes histoires. Elles se racontent au moment où je les écris. Et elles partent dans la logique de ce que je suis. Ce qui me parle là, c'est l'histoire des cellules pas encore...
Matures.
Je comprends pas du tout où est le problème. Puisque l'idée, à la base, c'est de faire un bébé, c'est ça, hein.
Mais c'est parce que c'est pas un spermatozoïde encore.
Et alors, l'idée c'est de faire un bébé. Le truc intéressant pour moi là, ça serait les incubateurs artificiels. Quand est-ce que vous allez y arriver? Parce que finalement, finalement c'est
faut
vraiment
les deux
pas
micros
drôle.
En même temps parce que elles se renvoient la balle.
Tant qu'à utiliser la science pour améliorer la vie de l'humanité, je crois que décharger les femmes du poids de 9 mois d'emmerdement,
sans alcool,
sans tabac, sans drogue, sans sexe, sans rock'n'roll, merde, ouais, il est temps que vous fassiez quelque chose.
Oui.
Voilà, ça c'est ma position en tant qu'auteur.
Qu'est-ce qu'il disait Jacques Testard éviter la satisfaction d'intérêts ou de besoins particuliers, là, il prend pas.
Si, si.
Non, non, il prend pas.
Non, mais nous, on est consommatrices sur ce coup-là. Donc
voilà.
D'accord. Oui, je comprends bien. Qu'est-ce que vous entendez, là? Qu'est-ce que vous entendez, Bernard Jégou? Parce qu'elles expriment un point de vue radical avec le sens de la provocation que vous avez compris qu'elles avaient, l'une et l'autre. Et a fortiori, quand elles sont l'une à côté de l'autre, et elles sont souvent l'une à côté de l'autre en ce moment. Donc, mais qu'est-ce que vous entendez d'une façon sous-jacente ?
Il y a des recherches qui sont faites depuis, je dirais, une vingtaine d'années sur l'utérus artificiel chez l'animal. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on puisse imaginer des applications chez l'homme. Mais il y a du travail qui est fait pour essayer de recréer ce qui est extraordinairement complexe. L'incubateur chez la poule, c'est facile, puisque derrière la coquille de l'œuf, l'embryon peut se développer, il a ses réserves, il est en monde clos. Chez les mammifères, c'est, et d'ailleurs c'est ce qui caractérise les mammifères, hein, c'est que l'incubation se fasse dans les voies génitales et que ensuite la nourriture soit apportée toujours à partir du corps par la lactation. Mais je voudrais venir sur quelque chose que vous avez dit avant, sur le tout biologique. Moi, ce qui m'épate, c'est que le tout biologique, je le vois moins dans la science que dans la vie quotidienne, où par exemple l'alimentation biologique, les boissons biologiques, le bio, et souvent d'ailleurs, le paradoxe pour moi en tant que scientifique, c'est que plus on parle de bio, moins on parle de biologie, y compris de la biologie des aliments qu'on propose.
Excellent. Excellent, parfait. Alors, on a encore quelques minutes avant de céder la place à la table ronde suivante. Est-ce que vous pouvez préparer un micro? Qui a envie de leur poser des questions? Qui a envie? Il suffit de lever la main, le micro va venir vers vous, au fond là-bas.
Bonjour. Ma question, c'est à quand les hommes qui peuvent accoucher?
Ah oui, ça c'est une excellente idée.
Alors.
Oui, merci.
Merci.
Bon. Alors, la question est posée aux scientifiques. Allez-y. Madame.
Alors, pour les hommes, je suis désolée, je ne pense pas que ce soit...
Marcello Mastroianni le tombe très bien.
Je voudrais d'abord trouver un endroit où le fœtus pourrait se loger. Et là, c'était Pierre Joinet qui m'avait dit que le meilleur endroit était le testicule pour qu'un fœtus puisse se développer. Voilà, c'est
tout ce
que je peux dire.
1,5 million de cellules
la cuisse, ça ne marche pas, alors.
Non, la cuisse, ça ne marche pas.
Je vais vous dire quelque chose d'assez terrifiant par rapport à ce qui est dit, Florence. C'est qu'il y a un type très très rare, mais il y a un type de cancer du testicule et où lorsque l'homme souffre et qu'on lui retire son testicule et qu'on le découpe, on voit différents éléments d'embryon parce que les cellules germinales ont cette capacité à pouvoir, dans des conditions très particulières, et celles-là sont bien mystérieuses, mais à dériver vers différentes choses, y compris vers des ébauches d'embryons dans lesquels on peut trouver...
Embryons, on l'entend, embryons d'enfants.
Oui,
voilà.
Puisqu'il s'agit de cellules humaines. Mais c'est un cas extrêmement particulier. Et ce qui est important, là, dans votre question, monsieur, c'est quand est-ce que, dans le fond, les hommes pourront procréer entre eux ou auto-procréer? Parce que, dans le fond, la matrice, après... Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas forcément le plus important, puisque aujourd'hui, il y a des mères porteuses. Et donc, quand est-ce que l'homme pourra se passer de l'œuf féminin? Et ça, on peut l'imaginer dans un futur pas trop éloigné avec les recherches telles qu'elles se font sur les cellules souches aujourd'hui.
Alors, brièvement, Jeanne, s'il vous plaît, brièvement.
Juste, les femmes peuvent se passer des hommes pour procréer. Ça s'appelle la parthénogenèse, et a priori, c'est presque plus possible que ce que vous décrivez, il me semble.
C'est plus facile, en effet, pour la femme maintenant.
Donc on va s'en passer, finalement.
En France, est-ce qu'on peut recourir au don de sperme à l'étranger? Une femme célibataire peut recourir au don de sperme pour avoir un enfant, ce qui n'est pas autorisé en France. Hein. Et la mère porteuse non plus n'est pas autorisée.
On se prive du contact, mais pas de la gamète. Hein.
Ça, on après, l'a... après le tout est de savoir comment on veut faire son enfant, voilà. S'il y a un contexte d'amour ou pas.
Cela dit, je viens d'être provoque, hein, mais... Je trouve terrifiant, mais absolument terrifiant, le pouvoir qu'ont les femmes sur la reproduction humaine. Les hommes n'ont quasiment plus leur mot à dire, et ça, je trouve ça atroce. Il n'y a pas de raison d'échanger une inégalité contre une autre. Voilà, c'était ma position et je la partage.
Écoutez, Jeanne, je vous remercie parce que la montre me dit que c'est la phase de conclusion, et elle est assez forte. Merci, je voudrais que vous les applaudissiez. Merci. À vous, mesdames, messieurs. Monsieur, allons-y. Juste pour vous signaler que Jeanne et Anne sont en signature à la librairie dans les instants qui viennent. Suivez-les des yeux. Vous pourrez les suivre du pas aussi. Voilà. Merci.